France Inter.
À portée de voix.
À la maison, en voiture ou sur votre téléphone.
France Inter arrive sur les assistants vocaux.
Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles.
Oli et ses histoires pour les enfants.
Vos émissions en direct.
Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le premier film de Bertrand Blier, sorti en 1963, Hitler connaît pas, ou l'écho d'une génération. Ce film, c'est d'abord l'histoire d'un sacré titre, volontiers provocateur, le premier d'ailleurs d'une longue liste pour le réalisateur des valseuses ou de préparer vos mouchoirs. Pour Bertrand Blier, tout commence en 1962. Il a 23 ans, un nom de famille prestigieux, fils de Bernard, et de grands rêves de cinéma. Un jeune producteur lui offre alors sa chance. Il lui propose de réaliser un documentaire sur la jeunesse, le grand sujet du moment. Et le voilà parti sur les routes de France, à la rencontre des jeunes, de leur histoire, leurs problèmes, leurs pudeurs. Il en choisit 11, ni exemplaires, ni hors normes, qu'il interroge ensuite en studio, créant ainsi un magnifique théâtre de la parole. On s'attendait à ce que Blier donne des clés pour comprendre les copains, cette ethnie bizarre qui a émergé dans la France ankylosée du général de Gaulle, mais non, le cinéaste parle d'autre chose. De visage et de corps, d'oubli, de silence, de cinéma, d'inégalité sociale et d'une révolte qui n'a pas encore dit son nom. 5 ans plus tard, on la baptisera mai 68. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Bas, enseignant et critique de cinéma à la revue Chronicard. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
De nouveau Cannes pour la 16e fois déjà, 16e épisode de ce feuilleton à succès dont le décor est toujours le même. Est tellement semblable les personnages, même si pour les découvrir, l'âge, le temps et l'avion nous permettent de prendre un peu d'altitude.
Festival de Cannes, 1963. C'est le joli mois de mai sur la Croisette. Vous savez, celui où il pleut tout le temps. Cannes, ses rites, ses excès, ses stars. Depuis 16 ans et pour 15 jours, Cannes, la ville-monde du cinéma, invente sa propre fiction, miroir de son temps et de son époque. En cette année 63, le pays est enfin en paix. La guerre d'Algérie est terminée, l'insouciance prend le pouvoir. On arbore mini-jupe et chignon à la Bardo, on fait semblant d'éviter les nouveaux paparazzi, et on se pâme, comme tout le monde, devant la beauté italienne de Claudia Cardinale, révélation du guépard, signé Visconti et futur Palme d'Or. Pour tout scandale, il y aura eu cette année-là l'autre Cristobal, film d'Armand Gatti, représentant Cuba dans la compétition. La guerre froide, elle, est en phase de détente, mais n'a pas dit son dernier mot. Quelques petites provocations également viennent réveiller de temps à autre les festivaliers. Le cinéma est mort, vive la télévision, s'écrit le grand Marcel Pagnol. Oh, une simple pagnolade, une galéjade, diront certains. Mais Trente Glorieuses oblige, le petit écran s'installe bel et bien dans les foyers français. Bref, au revoir les années noires, le pays plonge dans le grand bain de la consommation. Cannes, ce sont aussi à chaque fois des visages qu'on découvre, une expérience de première fois joyeuse et spontanée. Depuis l'année précédente, le festival propose une sélection parallèle. La Semaine internationale de la critique, sorte de salon des refusés, réservé à un premier ou à un deuxième film. La promesse est alors de promouvoir un cinéma jusqu'à présent ignoré par la sélection officielle. Et pour cause, en cette année 63, le syndicat des producteurs retire au dernier moment plusieurs œuvres de la compétition jugées trop intellectuelles. Et parmi elles, un film au titre provocateur, Hitler connaît pas, finalement repêché par la Semaine de la critique. Son auteur.
Nom, prénom, âge.
Blier Bertrand, 24 ans. Cinéaste.
De Blier, on connaît surtout le père, Bernard. Un acteur au physique jovial, tellement drôle dans son côté bougon. Immense acteur, tantôt Marie-Cocu comme dans L'Hôtel du Nord, tantôt gangster maladroit dans les films de Lautner. Parfait également dans des rôles dramatiques, comme dans son personnage d'avocat intègre dans Marie-Octobre, 4 ans plus tôt. Et bien sûr, impeccable dans les répliques de Audiard, un régal façon puzzle. En 1963, il devient d'ailleurs l'un des tontons flingueurs autour de trio Lino Ventura, Jean Lefebvre et Francis Blanche. Les trois compères se saoulent en pensant à Lulu la Nantaise et entrent en une seule scène dans la légende du cinéma français. Pendant que Bernard devient incontournable, Bertrand, le fils, fait ses gammes de cinéaste. À 24 ans, il présente donc son premier film « Hitler connaît pas » dans le cadre de la Semaine de la critique à Cannes. C'est un premier long-métrage à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, un objet filmique non identifié aux allures d'inventaire des tourments et des espoirs de la jeunesse française de l'époque. Pendant 90 minutes, 11 jeunes, âgés de 15 à 20 ans, parlent devant la caméra bliée, enfermés dans un studio de cinéma. Fils d'entrepreneurs ou d'ouvriers, glandeurs, lycéens, mannequins, mères célibataires ou bourgeoises libérées, chacun, chacune évoque, et sans que personne ne semble leur poser de questions, leur enfance, leurs parents, l'amour, la sexualité, le travail, l'avenir, la vie, quoi. En 5 cartons qui ouvrent le film, nous voilà prévenus. Hitler connaît pas n'est pas un panorama représentatif de la jeunesse actuelle, mais une image subjective, un miroir à 11 faces. Un spectacle plutôt qu'une enquête, insiste son réalisateur. Chacun parle en son nom propre et, peut-on lire dans l'intertitre, ils ne se sont jamais rencontrés pendant le tournage. Seul le montage les rapproche, créant l'illusion d'une conversation imaginaire, un étrange débat, une cantate à plusieurs voix. Ici, derrière les mots de ces enfants d'après-guerre, pas d'idéal, pas d'ambition, pas de préoccupation sociale ni de romantisme révolutionnaire, non. Plutôt une sorte d'indifférence amnésique à la politique et à l'histoire, moins de 20 ans après la chute du nazisme pourtant. D'où un titre qui, précisons-le, ne constitue en aucun cas une citation. Sur la croisette, en mai 63, ce regard corrosif posé sur la jeunesse, doublé d'une charge anti-bourgeoise, fait grand bruit. L'audace de Bertrand Blier séduit les uns, sa désinvolture exaspère les autres, et notamment les critiques du Masque et la Plume, émission de l'ERTF puis de France Inter qu'on ne présente plus.
Est-ce que vous avez vu hors festival le film de Bertrand Blier, Hitler connaît pas?
Oui, on l'a vu, moi je ne suis pas très enthousiaste. Il y a des gens qui ont dit que c'était un film malhonnête et démagogique, bon moi je ne trouve pas. Mais je trouve que ça n'est pas très significatif et puis surtout on ne s'attache pas beaucoup aux personnages. Il y en a 3 ou 4, il y en a une douzaine, on en retient 3 ou 4 et c'est tout.
Oui. Non, on en retient. Yvonne Babi, vous êtes encore plus sévère.
Oui, moi je trouve que c'est très démagogique justement et je trouve que les personnages ne sont pas du tout intéressants et que justement ils font du cinéma, c'est-à-dire qu'ils se laissent aller comme ça à une espèce d'exhibitionnisme désagréable. Et finalement, je trouve que l'entreprise était très fausse et très artificielle.
Oui, je crois que le réalisateur, quand on l'interroge, n'avait aucune idée en tête. Il a fait ça comme ça. On va filmer, on va voir ce que ça donne.
Oui, il s'est dit, c'est un bon truc, le cinéma vérité, ça marche. Et voilà.
Bertrand Blier aurait donc fait ça comme ça, sans aucune idée en tête, au petit bonheur la chance. Ah, les critiques. Rempart précieux au marketing, ils vont toutefois et parfois un peu vite en besogne, car enfin, ce film atypique vaut bien plus que ce qu'en pensent nos amis du Masque. Retour donc sur la genèse du film. Enfant de la balle, Blier fils à 14 ans, lorsque Henri-Georges Clouzot l'invite à la projection de son film Le Mystère Picasso au studio de la Victorine à Nice. C'est une révélation. Désormais, pour Bertrand Blier, c'est clair et c'est décidé, c'est derrière la caméra qu'il veut se faire un prénom. D'assistant stagiaire à homme à tout faire, il passe d'un film à l'autre jusqu'à devenir second assistant auprès de Georges Lautner. Et puis en 1962, un certain André Michelin, rejeton de la célèbre famille pneumatique et jeune producteur gonflé, lui offre sa chance et propose de réaliser un documentaire sur la jeunesse française. Bertrand Blier s'en souvient au micro de France Culture en 2010.
C'est un hasard, c'est une opportunité qui s'est présentée, une chance qui est passée dans mon paysage et sur laquelle j'ai sauté parce que j'étais un affamé de cinéma et que j'avais déjà fait mes classes dans le métier, donc comme assistant. Et quand cette opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus et je l'ai arrangé à ma manière. Et j'ai fait ce film à une époque où j'étais pas du tout programmé pour faire un film. J'étais beaucoup trop jeune.
Un film sur les jeunes. En ce début des années 60, c'est plus qu'une idée dans l'air, c'est une quasi-obsession dans les milieux du cinéma. Il faut dire que l'époque est charnière. Née à la fin de la guerre et dans l'euphorie de la libération, la génération des baby-boomers entre dans l'adolescence dans une France portée par les premiers effets des Trente Glorieuses. Croissance économique, prémisse de la société de consommation, essor de la scolarisation et de la mobilité, en mobilette de préférence. Un contexte qui favorise l'émergence des jeunes comme une catégorie sociale à part entière, ressentie comme telle par elle-même et observée par la société adulte. Tout commence en décembre 56 et Dieu créa la femme sort sur les écrans. Sous l'œil de Roger Vadim, Brigitte Bardot devient bébé, un sexe symbole, première image du corps jeune et libéré d'une femme à la fois ingénue et fatale. Le couple légendaire Bardot-Vadim provoque un véritable Big Bang dans la société puritaine des années 50 et dans l'histoire du cinéma, jusqu'à servir de bannière pour les critiques de cahiers.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme ?
La tentation. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux.
Je suis une croque de diamant.
L'année suivante, en 1957, dans le journal L'Express, la journaliste Françoise Giroud lance une vaste enquête sur cette nouvelle vague pour sonder et interroger la jeunesse française. Fossé des générations, nouvelle classe dangereuse, crise de la jeunesse, ces expressions entrent alors dans les discours sociaux, politiques, médiatiques et ont de beaux jours devant elles. Le cinéma également porte haut cette jeunesse qui s'incarne dans un courant révolutionnaire et passionné, la Nouvelle Vague. Chabrol, Truffaut, Godard ou Rossi en tête d'affiche, ces jeunes cinéastes inventent au tournant des années 60 une façon inédite de faire des films et de représenter leur génération. Il ne faut pas oublier non plus le rôle pionnier d'Europe numéro 1, comme on appelait alors la radio en vue à l'époque. À l'époque. Qui, à certains égards, avait réinventé la radio grâce notamment à son émission « Salut les copains », créée en 1959, 2 heures quotidiennes dédiées aux idoles du rock'n'roll, un succès extraordinaire. La France vit alors au rythme des yéyés, la télévision n'aura de cesse désormais d'interroger cette jeunesse comme on le ferait d'une pitié. Émissions, reportages et enquêtes prolifèrent sur le sujet. Au hasard, extrait de l'émission « H tendre et tête de bois » diffusée le 30 mai 1961, présentée par le pétillant Albert Reissner.
Regardez les visages de ces jeunes gens et de ces jeunes filles. La jeune fille a 17-18 ans. Elle est vendeuse dans un magasin ou peut-être étalagiste ou encore dactylo manucure. Elle se prénomme Martine, ou bien Chantal, ou Corinne, ou même Ivane. Le garçon, lui, a 18, 19, 20 ans peut-être, mais il n'a pas fait son service militaire. Il est garçon coiffeur, ou bien aide-comptable, ou dessinateur. Ses prénoms sont Daniel, Serge, Gabi. Il est passionné de rock'n'roll. Il aime les appareils à jetons, les jukebox.
C'est dans ce contexte qu'en 1962, le jeune producteur André Michelin soumet à Bertrand Blier son idée de film sur les jeunes avec comme angle les blousons noirs. Version française des Teddy Boy anglais ou des Vitelloni italiens, ils surgissent au cours de l'été 59, présentés comme un phénomène social. Des bandes de jeunes vêtus de blousons noirs sèmeraient la terreur un peu partout dans le pays. Le mythe est en marche. Mais Bertrand Blier, ce jeune homme brun de 23 ans, longiligne, portant lunettes sérieuses, les blousons noirs, bon, il s'en fiche un peu. En revanche, il ne renâcle pas l'idée d'aller recueillir sur le terrain les témoignages d'une génération qui, à peu de choses près, est la sienne. Ainsi, pendant un mois, il parcourt l'ouest de la France. Il fallait bien commencer par quelque part, muni d'un simple magnétophone pour une expérience sociologique qui va le bouleverser. À la sortie des lycées, dans la rue, les cafés, les usines, les centres d'éducation surveillés ou les foyers pour mères célibataires, Bertrand Blier s'entretient avec des dizaines de garçons et de filles de tous milieux. Leur seul point commun, ils n'ont pas 20 ans. Avec leurs témoignages, ils constituent une espèce de dossier sur les problèmes de la jeunesse pour mieux l'abandonner ensuite. Ce qu'explique Blier au micro de l'ERTF le 12 mai 63.
Le voyage a été assez inutile sur le plan cinéma. Il a été utile parce que moi qui ne connaissais rien des problèmes de jeunes, j'ai pris un contact physique avec les jeunes, direct, et j'ai décidé de faire la même chose, mais dans la région parisienne, où c'est beaucoup plus simple pour des raisons pratiques, parce qu'on peut voir les personnages tout le temps.
Mais comment ça se fait que vous qui aviez 23 ans, vous dites que vous n'avez pas de contact avec les jeunes, que vous ne connaissiez pas la jeunesse?
Je ne connaissais qu'une certaine jeunesse, qui est la jeunesse que j'ai pu connaître quand j'avais 18 ans, mais ça s'arrête là.
Après ce voyage en terre inconnue, Blier rentre donc à Paris. Fini l'enquête, place au casting. Ce qu'il cherche, c'est une galerie de personnages, avec une histoire, une gueule, une voix, ni exemplaire, ni hors norme. Pas comme les jeunes qu'on voit partout à la télé, les copains ou les blousons noirs, non, non. Bertrand Blier rêve de cinéma. Il lui faut donc un casting à la hauteur de ses rêves.
Alors j'ai choisi des personnages pendant 6 mois dans la région parisienne, uniquement suivant des critères de cinéma. C'est-à-dire que j'ai fait exactement comme si je cherchais des acteurs. J'ai cherché plus qu'un acteur, puisque j'ai cherché un acteur qui ait une histoire à raconter. Mais au départ, c'était purement physique. Je voyais un garçon ou une fille qui avait un physique intéressant, je l'arrêtais, et presque toujours, il avait quelque chose à dire.
Et ce n'est pas un hasard si Bertrand Blier revendique le terme de personnage comme un étendard à l'encontre d'un autre, celui du cinéma vérité, dernier né de la galaxie Nouvelle Vague. Deux ans auparavant, en 1960, l'ethnologue Jean Rouch et le sociologue Edgar Morin inauguraient le genre avec leur film Chronique d'été. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission que nous avions consacrée à ce film majeur. Les principes sont posés. Pas de scénario, pas d'acteur, pas de studio, juste une caméra mobile à l'épaule pour filmer les gens, leur quotidien, le réel. Voilà, c'est ça le cinéma vérité. Eh bien, très peu pour Blier, pas assez cinéma tout ça. Alors, pour enfoncer le clou, il décide de filmer ses 11 acteurs d'un jour dans un studio, à Épinay en l'occurrence. Ça n'a l'air de rien comme ça à l'époque, mais ça veut dire beaucoup. Car dans les milieux du cinéma, il fallait choisir son camp, le cinéma de papa ou la nouvelle vague, le studio ou la rue. Le jeune Blier, lui, préfère la synthèse, le trait d'union. Il choisit de vrais jeunes gens, mais c'est pour mieux les extraire du réel en les plaçant dans cet écrin magnifique au noir et blanc très léché. Il délaisse la petite 16 mm et son synchrone pour trois caméras imposantes, des rails de travelling, des micros, des projecteurs et action.
Il faut savoir profiter de l'instant. Ne jamais attendre trop longtemps.
Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Envoyez le secteur.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Tu me mets une double tarlade dessus.
Ça va là? Pas trop fatigué?
Non.
Non. Voulez-vous mouiller vos lèvres?
Merci.
Allô, Godley. Allô, Godley. Vous m'entendez? On va tourner d'une minute à l'autre.
Tourné en 1962, Hitler connaît pas, s'ouvre sur un plan extérieur, un studio au crépuscule, plusieurs zooms avant sur la porte d'entrée, puis sur un panneau lumineux, silence. Les projecteurs descendent doucement du plafond, le plateau s'éclaire, au centre de la lumière, assise sur une chaise, une jeune fille. Quelques retouches maquillage, elle se pince les lèvres, le trac monte. Autour d'elle, le balai méticuleux des techniciens. Et en face, dans l'ombre, le réalisateur. Les questions vont pleuvoir, on ne les entendra pas. On entendra juste la voix de la jeune fille, douce et monotone. Cette jeune fille a 18 ans, elle s'appelle Huguette, mais le spectateur ne le saura pas. Elle est donc la première à apparaître à l'écran, accompagnée par la musique de Georges Delerue, compositeur qui écrira la même année le célèbre thème du mépris. Visage de Madone au regard triste, Huguette livre son cœur. Petite fille pauvre, elle quitte très jeune le foyer familial pour devenir quelques années plus tard une fille mère abandonnée par son premier amour. Elle est la ligne grave du film, la révélation d'une détresse que l'on voit très rarement au cinéma à cette époque.
Je l'ai connu au cinéma. Je l'ai trouvé très sympathique. Il avait l'air d'un garçon sérieux. était très gentil avec moi. On se voyait tous les soirs après mon travail. Puis on sortait ensemble avec les copains. Quelquefois, on allait danser, mais le plus souvent, on allait au cinéma. Oh, arrêtez.
Bientôt, sa voix, cette voix voilée, s'entremêle par un jeu de montage, rappelons que les personnages ne se sont jamais rencontrés, avec celle de René, 19 ans, électricien dans le bâtiment. Dans son carnet de repérage, Bertrand Blier le décrit ainsi. C'est le vrai Titi, petit, roulant les épaules, bavard jusqu'au cabotinage, un coq de bistrot, le bal du quartier et son royaume. Le réalisateur l'a rencontré en banlieue, dans un foyer de semi-liberté. Il aurait pu devenir un blouson noir, mais il s'est rangé avant que ça ne dégénère.
Au dépôt, on est venu me chercher. Et puis, on m'a emmené dans les bureaux. Et je suis tombé sur une assistante sociale. Assez gentille, quoi. Et ce qui m'a plu le plus, c'est que elle avait son paquet de cigarettes sur le bureau. Et comme ça faisait deux jours que je n'avais pas fumé, rien du tout... J'ai vraiment été content pour ça. Et puis, elle m'a posé quelques questions. Elle m'a demandé si je voulais bien y répondre. Alors, j'ai dit tout, absolument tout, tout de ma vie. Du jour, tout ce que je savais sur ma vie, sur la vie de mes parents. J'ai tout raconté.
Huguette et René, ils tiennent la dramaturgie d'Hitler connaît pas. Deux jeunes prolétaires dont les renoncements laissent transpercer une amère vérité, celle des inégalités, de la mauvaise fortune et des bons cœurs. À leur côté, on retrouve un apprenti ouvrier déjà usé par le travail à la chaîne. Et puis, ce gosse abandonné à la naissance, élevé par l'assistance publique, qui ne sait prononcer ni Dostoïevski ni Marx, mais qui les lit quand même. Soudain, des bruits de talons résonnent dans le studio. La princesse arrive. Elle s'appelle Nicole. 19 ans, sténodactylo dans un bureau de Paris, mini-jupe et tout le tintouin. Blier la décrit ainsi. Une expression souvent dure, un ton agressif, mais le charme de son âge. Non, pas tout à fait ce charme-là, parce que maquillage abusif, élégance voyante, des marques de fatigue trahissent les sorties nocturnes, la vie tumultueuse. Alors, le miroir s'inverse. La jeunesse prolétaire laisse place au blouson doré, autoproclamé la bande du drugstore. Ils ont pour eux l'argent, l'insouciance, la liberté souveraine et la provocation facile.
Ma mère a fouillé dans mon sac. C'est un peu ennuyeux, mais enfin, c'est surtout ennuyeux pour elle. Elle a découvert surtout mon carnet de rendez-vous. C'est assez révélateur. Et puis ensuite, elle a découvert une liste de noms. Enfin, assez longue. C'est la liste de mes conquêtes. Il y en a pas mal, oui. Ça laisse rêveur. En un an, ça fait beaucoup de monde. Oui, c'est assez impressionnant comme ça. Enfin, ça dépend pour qui. C'est assez drôle.
Aux côtés de Nicole, on retrouvera bientôt Zouzou, jeune mannequin, futur égérie des 60s. Il y a aussi un fils de patron un peu caricatural et un fils à papa qui se lève tous les jours à midi. Comme chacun des 11 personnages, tous parlent de l'éducation qu'ils ont reçue, de l'école, de l'amour, du mariage et de l'argent. Beaucoup. Le tournage dure 10 jours et accouche de quelques 30 000 mètres de pellicule. Mais le plus long reste à faire, monter, ou plutôt trahir, comme diraient les défenseurs du cinéma vérité. Pendant 5 mois, Bertrand Blier va s'en donner à cœur joie et faire sienne la citation d'André Bazin, reprise cette même année par Godard dans Le Mépris. « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. » Le réalisateur utilise différents procédés pour croiser les témoignages de ses personnages. Il les fait se répondre sur les mêmes thématiques, tantôt s'accorder ou se contredire. Il joue des regards en coin et invente même, à la toute fin du film, une histoire de flirt douce comme un bonbon. Parfois, le montage se fait plus drôle, plus cruel aussi. comme lorsque le jeune ouvrier évoque le bruit infernal de l'usine, alors que Zouzou, le mannequin, elle, raconte le vacarme chez Régine, boîte de nuit mythique.
Alors là, le bruit, c'est pas pareil, ça, c'est... Faut tenir le coup.
Moi, j'ai l'habitude.
Le bruit dans l'atelier, c'est...
Au début, c'est assourdissant pour les gens qui viennent jamais.
Mais pour un type qui n'a jamais mis les pieds dans une usine, dans un atelier, le type est foudroyé, si je puis dire, au premier coup. Quand une presse tombe, vous savez, c'est formidable, ça fait un bang, et puis ça, pendant des heures comme ça, le type est là, et bang, et pendant... c'est formidable.
D'ailleurs, les gens qui viennent pas très souvent, ils partent au bout d'une heure, ils sont assourdis, ils ont des têtes comme ça, et ils peuvent plus, quoi, ils peuvent pas tenir chez la Gine.
Mais il faut y résister. Hein. Rester 10 heures dans un atelier comme ça, vous devenez dingue.
Cette séquence, montée presque comme un gag, montre bien la dramaturgie d'Hitler connaît pas, construite par opposition. D'un côté, les enfants de prolétaires, de l'autre, les gosses de riches. D'un côté, Huguette, la fille mère tragique, de l'autre, Nicole, la jeune femme libérée qui ironise sur l'amour et la fidélité. Car tel est bien le grand sujet du film, la fracture sociale. Et à la fin, le constat est surprenant. Alors que les blousons dorés rejettent l'autorité parentale et ses valeurs conservatrices, les jeunes issus de milieux plus défavorisés ne rêvent, eux, que de confort petit bourgeois, de vie rangée type métro-boulot-dodo, de celles qu'ils n'ont jamais connues. Pour la censure, ce portrait de la jeunesse est insupportable. En clair, les riches sont cyniques, les pauvres sont lâches et l'ensemble est bien triste. Voilà. La commission de contrôle des films va même jusqu'à proposer l'interdiction totale d'Hitler connaît pas, dont il réchappe à deux voix près. Le 24 juillet 1963, 2 mois après sa présentation au Festival de Cannes, il sort donc sur les écrans français avec le macaron interdit aux moins de 18 ans. Et pourtant, il n'y a ici ni violence, ni érotisme ou allusion politique. Que voulez-vous? Autre temps, autre heure. Les critiques, elles, ne sont pas plus tendres qu'à Cannes. Dans Le Monde du 28 juillet 1963, par exemple, Jean de Baroncelli trouve que ces jeunes sont sots, mous, abrutis et médiocres. Mais il reconnaît que ce film dérangeant oblige à réfléchir. Un auteur a-t-il le droit de jouer ainsi avec les secrets des cœurs et des âmes? N'y a-t-il pas là un viol intolérable de la personnalité humaine? Aujourd'hui, la question de Baroncelli est datée. Le petit écran a fait son œuvre, de la confession permanente aux affres de la télé-réalité. Non, ce qui est réellement fascinant, c'est que Blier enregistre à son corps défendant les prémices de ce qui deviendra, 5 ans plus tard, l'esprit de mai 68. En décalant le regard, comme toujours, il ne va pas chercher des jeunes politisés, les ultra-militants de Saint-Germain-des-Prés, comme le fera cette même année 63 Chris Marker dans son film Le Joli Nez, ou plus tard Godard dans La Chinoise. Hitler connaît pas annonce la contestation à venir d'une façon plus complexe, moins connue aussi, comme l'analyse l'historien et enseignant du cinéma Frédéric Bas.
Hitler connaît pas, c'est un peu un mai 68 qui a pas encore explosé. Il est déjà très présent dans les personnages issus du milieu bourgeois, les jeunes filles bourgeoises, on voit bien qu'elles sont déjà émancipées, d'ailleurs de manière qu'on ignore souvent. Hein. Par contre, les jeunes femmes du milieu populaire qu'on ne voyait jamais, là on voit bien que le chemin sera long d'une conscience politique. On pense à Huguette, qui est extrêmement bouleversée quand elle parle de l'homme qu'il a quitté avec un enfant, qui dit qu'elle a retrouvé sa trace, mais qu'elle ne sait pas si elle a envie de le revoir, mais elle parle d'elle comme coupable quasiment. Et là, à ce moment-là, Blier, d'une manière très cruelle, mais cruelle au sens de il faut être cruel pour voir les choses, montre un plan de la jeune bourgeoise qui a l'air de sourire des affres traversées par Huguette, qui sont pas... Elle dit d'ailleurs à un moment donné, voilà, c'est pas insurmontable.
Si Hitler connaît pas n'est pas représentatif de la jeunesse de 1963, ce que vous l'oubliez d'ailleurs, il n'en demeure pas moins l'écho d'une génération tiraillée entre un passé douloureux et un avenir incertain. Ces jeunes ont grandi dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ont été élevés dans son ombre et conviés à s'en souvenir. Et puis, il y a eu l'Algérie et les grands frères qui en reviendront fracassés. Eux sont porteurs d'un nouvel espoir, d'une nouvelle ère qui explosera bientôt dans la rue. Pour Bertrand Blier, ce premier film reste l'unique documentaire dans sa grande carrière de cinéaste et il le présentera toujours comme une expérience fondatrice. Désormais, son grand sujet sera l'exploration de la psyché de son époque avec en point d'orgue, 11 ans plus tard, les valseuses. Oui, on y retrouvera chez Depardieu, Devers et Miu Miu cette langue si singulière, riche et fleurie, enregistrée dans Hitler connaît pas. À bien des égards, Blier radicalise ce qu'il a vu et entendu dans son premier film. Parce que lui aussi a eu 20 ans. Et comme le proverbial Paul Nizan, il ne laissera personne dire que c'est le plus bel âge de la vie.
Black trombone, monotone. Le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone. Autochtone de la nuit, Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone. Elle se donne à demi-nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone. C'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne. J'abandonne. C'est fini.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Hitler connaît pas. Notre invité, Frédéric Bas. Bonjour.
Bonjour.
Donc, enseignant et critique de cinéma à la revue Chronique Art. Alors, en février dernier, la collection DVD Make My Day, conçue en collaboration avec le cinéphilique Jean-Baptiste Torré, a édité pour la première fois ce film de jeunesse de Bertrand Blier, Hitler connaît pas, et dans lequel vous intervenez dans la partie bonus. D'ailleurs, on vous a entendu à l'instant. Vous confirmez, j'imagine, ou en quelques mois, est-ce que quelque chose aurait changé dans votre analyse après avoir revu le film ou pas?
Non, déjà c'est formidable que le film puisse sortir en DVD et être redécouvert, parce que quand on écoute dans l'histoire, le récit qu'on a entendu, les réactions très très négatives de la critique, là il y a un regard qui a changé sur le film, du fait peut-être aussi des événements de 68 qui vont être postérieurs au film. C'est-à-dire la manière de regarder le film aujourd'hui le révèle comme une sorte d'archive, une généalogie, un peu quelque chose qui va exploser. Et autant Blier a été le grand auteur majeur pour moi des années 70-80 de la France qui se libère.
Tenue de soirée, les valseuses et les compagnies.
Tenue de soirée 80 et puis valseuses, puis bah mouchoir. Je pense qu'à lui tout seul, il a ouvert la France d'une manière. On peut parler du façon puzzle du tonton flingueur, mais Blier fils a été un très très grand révélateur de cette France-là. Et donc là, c'est ce jeune homme qui enregistre, oui, peut-être les prémices de quelque chose, mais il les enregistre avec les critiques du Masque et la Plume disaient il a fait ça n'importe comment. Non, c'est très beau de voir effectivement qu'il y a une forme d'inconscience quand on tourne un premier film. Et là, on le voit. Et cette forme d'inconscience et d'innocence aussi, d'une certaine manière, si on peut parler d'innocence pour oublier. Mais il n'est pas encore auteur, il n'est pas encore le grand auteur qu'on connaît, qu'on découvre par la suite. Donc là, il écoute tous ces jeunes, qui sont des jeunes souvent issus de milieux qui ne sont pas les siens. Enfin, quelques-uns partagent un peu ses origines sociales, mais quand même majoritairement, c'est quand même des jeunes des milieux populaires qui l'ont impressionné. Mmh. Et là, il les enregistre, il les écoute. Et de quelle manière ?
Ce qui est saisissant aussi, c'est qu'il interviewe des jeunes qui ont quoi, 3 ans de moins que lui. Donc il fait partie, en termes de pyramide des âges, hein, de démographie de ces jeunes-là, sans y être, il a un pied dedans, un pied dehors. Hein.
Exactement, il a quasiment leur âge, parce que c'est vrai qu'on a évoqué la Nouvelle Vague, mais la Nouvelle Vague est un petit peu plus âgée que Blier. Et Blier, effectivement, il a souvent dit, les gens m'ont dit, mais pourquoi vous avez fait un film sur la jeunesse, vous voulez comprendre la jeunesse? Il dit, mais la jeunesse m'intéressait pas, j'étais un jeune. J'étais un jeune qui faisait un film sur les jeunes, je m'intéressais plutôt au comment raconter cette jeunesse. Et ça, je trouve que le film à revoir est très très fort par rapport à ça. Parce que la jeunesse était un thème, effectivement, qui était dans tous les médias, la télévision s'en emparait, les premières enquêtes, il y a le cinéma vérité, on a interrogé les jeunes dans la rue pour savoir ce qu'ils étaient. Mais lui, il fait tout à fait autre chose. Il a souvent raconté les origines cinématographiques de ce style. Et c'est très beau ce qu'il dit. Il dit qu'il y avait le plan sublime de Jean-Pierre Léo racontant à la psychologue son histoire d'Antoine Doinel dans les 400 coups de Truffaut, ouais. Donc 59, quelques années avant. Il y avait son expérience qui a été évoquée aussi d'assistant au tournage ou à la projection, je crois à la projection du Mystère Picasso de Clouzot, où il a vu les grosses caméras, il a vu tout ça. Il a eu envie de faire entre le réalisme de la parole de Doinel, de ce jeune qui parle, à Cannes déjà en 59, présenté à Cannes, et puis cette machinerie du cinéma de faire un film. Et puis le troisième cinéaste qui cite, et ça moi quand je vois le film, c'est ce que j'entends, c'est René. C'est-à-dire quand on entend la voix, le grain de voix de tous ces jeunes,
mais oui.
Moi j'entends le grain de voix d'Emmanuel Riva dans Hiroshima mon amour, et Blier le confirme, il dit c'est cette émotion-là. Je voulais la belle photo de René, je voulais la très belle photographie de René. Donc c'est vrai que les trois ensemble, pour quelqu'un qui a 21-22 ans, qui fera des films dont le style sera très différent après, ça c'est très impressionnant aujourd'hui.
C'est assez mûr, mature quand même, comme film à 23 ans. Il y a déjà une réflexion, on sent déjà l'intelligence que Blier développera ensuite dans ses filmographies.
Ah oui, complètement, oui, complètement. Puis on sent sa jouissance face, je pourrais dire, à la réalité sociale.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, c'est pas le tout venant du regard. C'est-à-dire que ce montage qui a duré 5 mois et qui lui a été reproché parce qu'on lui a dit qu'il avait manipulé la voix, ça montre bien que Blier ne sera pas un cinéaste réaliste au sens de miroir de la réalité. Ce sera un cinéaste antinaturaliste, un cinéaste qui aime le théâtre autant que le cinéma, enfin qui veut déplacer.
On voit très bien dans Buffet froid, je trouve.
Bien sûr,
c'est la synthèse de ce que vous dites. Buffet froid, l'illustration.
L'ouverture du film, on a jamais vu le RER comme ça, et on se demande si voilà, quand on va dans le RER aujourd'hui, on pense à cette scène-là et on a l'impression que c'est une scène de théâtre. Et Blier a un rapport comme ça à la société. C'est ce qu'il dit. Hein, j'ai choisi ces jeunes parce qu'ils étaient des personnages. Des visages, des personnages. Ce qui l'intéresse, c'est le personnage qui va nous raconter.
Visage, personnage, montage, sa démarche est une démarche de cinéaste.
Bien
sûr. C'est clair et net.
Et presque, pour le coup, c'est un film de fiction. C'est-à-dire que la question de dire est-ce que les jeunes étaient comme ça, il dit dès le début, dans les cartons du début, je ne cherche absolument pas à faire une enquête exhaustive.
Ouais, c'est pas l'IFOP, quoi.
Non, pas du tout.
Il cherche
plutôt à regarder chez chacun de ces jeunes, en recontant leurs paroles, ce qu'ils pourraient incarner dans les films qui fera postérieurement. Mais c'est vrai que Miu Miu, dans Les Valseuses, pourrait tout à fait être issu d'un des personnages enregistrés dans Hitler connaît pas.
C'est ce qu'on disait dans le récit, notamment, effectivement. Est-ce que c'est un film marquant dans votre propre cinéphilie, Frédéric Barrin ?
Alors, c'est un film très marquant pour moi parce que j'ai réalisé un film il y a une dizaine d'années avec mes élèves de 3e et j'ai repris le dispositif d'Hitler connaît pas en interrogeant les visages. Je les ai pris aussi dans un lieu, comme ça, un studio. Je voulais absolument pas, c'était en banlieue, c'était à Clichy-sous-Bois, je voulais absolument pas les enregistrer en bas des tours, ni dans ma salle de classe. Donc je les ai tous, j'ai demandé à un chef opérateur de les éclairer. C'est un film qui coûtait 3 centimes. Hein. C'était encore en francs à l'époque, je crois. Ou non, 100 euros, 3 centimes d'euros, on va dire. Et oui, j'ai utilisé ce dispositif pour le faire. Et ça me paraissait très important d'enregistrer tous ces enfants qui sont souvent pris dans des représentations médiatiques, qui dénient leur beauté, leur intérêt. Tous ces, voilà, c'est la jeunesse, les enfants. Enfin, c'est, voilà, pour
quelqu'un. Et vous avez fait le même genre de montage?
Oui, même genre, comme ça. Oui, même genre de montage, mais j'avais dit d'apprendre 3 leçons. Je les ai interrogés sur une leçon. Ils étaient très déstabilisés, ils ont beaucoup traqué. Et à la fin, j'ai essayé dans le montage, justement, qui n'a pas pris 5 mois, mais qui a pris un bon mois et demi, de le film fait 25 minutes, de garder leur vie, leur vitalité, mais sans me moquer d'eux, c'était très important. Et j'ai pas été aussi cruel que Blier, j'ai pas été assez loin, j'ai pas osé.
Bon, ben je vous appellerai pas Frédéric Blier alors.
Ah bah non.
On va écouter le vrai, tiens, Bertrand Blier, justement. Il s'exprime le 12 mai 1963 sur le titre. Il faut quand même revenir sur le titre, il ne les reconnaît pas, c'est pas n'importe quel titre. Il s'en explique.
À propos, une dernière question, Bertrand Blier. Que vient faire Hitler dans tout ça?
Hitler ne vient rien faire dans le film, c'est uniquement un symbole. C'est le symbole de la génération d'après-guerre.
Qui, elle, ne sait même pas ce que c'est
qu'Hitler. Qui n'a pas connu la guerre, qui connaît le passé, mais qui, je crois, en grande majorité, fait une croix sur le passé.
Frédéric Bas.
Mais là, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que c'est un mot d'auteur, ce titre. Et Dieu sait que Blier montra beaucoup de mots d'auteur. Enfin, je veux dire, c'est un auteur au sens littéraire, théâtral, Blier. C'est vrai que ce titre, récemment, quelqu'un me racontait une conversation où quelqu'un a utilisé cette expression, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris et il savait évidemment pas que c'était le titre d'un film de Blier. Mais c'est aujourd'hui, effectivement, quelque chose, je sais pas, il faudrait faire le regarder, hein, combien de fois c'est utilisé. Mais c'est vrai que cette idée, il la connaît pas. Non, mais je crois que ça veut simplement dire ce que ça dit, c'est-à-dire une sorte de rupture entre la génération de la guerre, de la résistance, de l'occupation. Aussi l'idée que quand on interroge un jeune, on a envie forcément qu'il parle de grands sujets, la guerre, la résistance, la génération d'avant, c'est quand même, quand on discute, on parle de guerre d'Espagne. Encore une fois, le film de Chris Marker, Le Joli Mai, est passionnant parce que il interroge dans la première partie du film des jeunes qui sont très proches de ceux de Blier et qui n'ont absolument aucune idée politique, ou en tout cas même quand ils en ont, disent des idées qui hérissent le poil de Marker, qui a l'air très en colère dans sa voix. Et dans la deuxième partie du film, il interroge des jeunes qui sont impliqués politiquement.
Alors voilà, on lui a reproché à Blier de ne pas avoir tenu un propos, ou faire tenir un propos politique. Sauf qu'à travers cette galerie de portraits, très sociologique, c'est aussi politique. C'est une façon de montrer la politique. Par cette sociologie-là. Il est politique, son film, en fait.
Bien sûr. Ben, je sais pas si un film comme Les Valseuses n'est pas politique. Enfin, faut redéfinir le mot. Oui. Quand Les Valseuses sort, effectivement, je crois pas que Devers et Depardieu parlent beaucoup, ces deux personnages de politique dans le film. Mais, je dirais, le film entier est à une telle provocation que, tout d'un coup, des choses se révèlent de la France. Je crois que Blier a été, encore une fois, quand je dis ça, c'est qu'il a été très, très loin dans la psyché, l'intimité, d'une manière peut-être maladroit dans son deuxième film Calmos, mais quand même, voilà, mais par contre d'une manière remarquable sur le couple, sur la famille, sur qu'est-ce que c'est l'amour, la question du désir. Je crois que c'est un cinéaste qui était très très loin là-dessus, avec une langue effectivement qui était peut-être issue d'une tradition de littérature plutôt peut-être des années, ou je sais pas, des années 30-40. C'est quelqu'un qui a quand même accompagné l'histoire de France dans les 70-80 d'une manière comme ça assez très politique pour moi, mais politique surréaliste. Ouais. C'est-à-dire que le cinéaste qui vient toujours à l'esprit que Blier, c'est Buñuel. Alors je ne sais pas si on peut dire Buñuel n'est pas politique. Enfin,
il y a une pensée quand même.
Il y a une pensée et sacrément politique, mais pas au sens de quel est le sujet d'actualité dont on va parler.
Bien sûr, bien sûr. Alors peut-on dire qu'Hitler ne connaît pas? C'est plutôt la bande de Salut les copains, SLC Europe 1, plutôt que celle des Amphis de la Sorbonne.
Bah, en tout cas, ce qui est évident, c'est quand on parle d'un film sur la jeunesse qui a annoncé 68, on parle toujours du même film, qui est un chef-d'œuvre, qui est La Chinoise de Godard.
Oui.
Mais La Chinoise de Godard, c'est pas toute la jeunesse. C'est un film très important pour voir comment des jeunes se politisent en France et ne se politisent pas selon les valeurs des pères de la résistance, en choisissant d'autres valeurs, en l'occurrence le maoïsme. Mais je crois que la jeunesse filmée par Blier en 63, donc quelques années avant quand même, mais Godard avait fait un film aussi très important, qui est un peu son Hitler connaît pas, qui est masculin-féminin, qui montrait aussi, avec Jean-Pierre Léo, avec Chantal Goya, qui montrait aussi, qui faisait un portrait de la jeunesse qui n'était pas un portrait d'une jeunesse politisée. Bon, pour revenir à La Chinoise, si La Chinoise, c'est effectivement ce qui se passe dans un appartement parisien, avec un engagement à partir de petits livres rouges et avec une esthétique extraordinairement épousant le film entier et rouge, comme une peinture. Hitler connaît pas, est plutôt un film effectivement qui va regarder plutôt à la marge, en regardant tous ceux qui... Peut-être, c'est cette notion de majorité silencieuse qu'il faudrait convoquer pour essayer de comprendre un peu, il ne les reconnaît pas. Mmh. Et de comprendre un petit peu quels sont les films du cinéma français qu'ont évoqué cette France. Moi, j'ai entendu récemment une parole très très dure de Maurice Pialat sur la Nouvelle Vague, que je ne connaissais pas, c'était un entretien avec Serge Toubiana. Et il disait, j'en veux beaucoup à la Nouvelle Vague d'avoir montré une France fausse. Alors, Serge Toubiana lui demande une France fausse, il dit oui, c'était pas du tout le reflet de la France de l'époque. Et c'est vrai que Pialat va être un grand cinéaste dans les années 70 de la jeunesse aussi. Passe ton bac d'abord, À nos amours sont des films vraiment importants. Et je crois que son souci à Pialat était quand même de peut-être évoquer cette jeunesse-là, celle d'Hitler connaît pas peut-être, cette jeune fille mère Huguette, plutôt que les militants de la chinoise. Enfin, il faut de tout pour tous les regards pour saisir ce sujet qui est quand même gigantesque, qui s'appelle ouais. La jeunesse. Enfin, il y a des jeunes, il n'y a pas de la jeunesse, donc c'est des films qui sont complémentaires, qui s'opposent pas.
Nous avons osé Fracture sociale, pour dire le film, c'est une illustration de ce qu'on peut appeler la fracture sociale. Vous êtes d'accord ou pas?
Bah, je dirais
pas rapprocher forcément avec la formule de Jacques Chirac en 95. On va s'émanciper de ça. Fracture sociale dans une acception plus large.
Ah oui, moi je pense que c'est un film effectivement sur les inégalités, enfin sur les différences de classe. Ouais. Moi j'aurais pas dit fracture sociale, mais différence de classe. Ah oui, pour moi c'est un film important sur la différence de classe. Je suis bouleversé par le film et le regard de Blier nous y porte dans ce décalage. Enfin, je veux dire, le seul personnage qui craque devant la caméra, c'est Huguette. C'est un extrait du tournage qu'il garde quand on entend Huguette dire je peux plus.
Je peux plus, oui.
Et oui, alors ça, ce « je peux plus », effectivement, on dit bah « non, c'est le spectacle ». Par contre, les personnages, la jeune femme, ce que Blier appelle la secrétaire venimeuse, elle ne s'interrompt pas. Enfin, elle pourrait rester encore 2 heures à raconter ses histoires amoureuses et sentimentales. Donc oui, différence de classe aussi dans le rapport à la caméra.
Alors, dans les bonus DVD dont nous avons parlé tout à l'heure, Bertrand Blier, lui aussi interviewé, on l'a dit, notamment sur le temps de repérage du film, un moment qui l'a beaucoup marqué. On écoute.
Ça a été très important sur le plan politique et social. C'est-à-dire que pour moi, j'avais besoin d'une immersion. J'avais besoin d'aller au front, quoi. J'y avais pas été. J'avais mes combats à livrer à chez moi. Bien sûr, c'était pas facile. Mais aller dans les usines, à la campagne, voir des ouvriers, voir des paysans, voir tout ça, puis d'autres, aller dans les foyers de mères célibataires où j'ai vu dans un dortoir, une petite fille de 12 ans, enceinte, qui jouait à la poupée. Elle était seule dans son dortoir. Elle jouait à la poupée, elle avait un gros ventre comme ça. 12 ans. Je ne l'ai pas utilisé dans le film. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit. Je ne l'aurais pas fait pour rien au monde. Mais c'est une image qui ne m'a jamais quitté, j'y pense encore.
Et vous, Frédéric Bas, quel le personnage qui vous a particulièrement marqué, ému, interpellé dans cette galerie? Un ou deux, hein. Enfin, changer
oui,
enfin,
moi, j'aime beaucoup le jeune prolétaire qui raconte évidemment son séjour au dépôt, puisqu'il me rappelle Doinel dans les 400 coups.
Ouais.
Et je crois que c'est aussi une augmentation qui permet de faire un pas de côté par rapport à tout ce qui était représenté, les blousons noirs, une image très très sordide de la délinquance. Et là, je trouve vraiment que voilà, on a dans la réalité quelque chose que Truffaut avait saisi dans les 400 coups. Et puis évidemment Huguette, parce que je vois Huguette comme un personnage filmé en plus avec une photographie très très belle. Alors une chose que je savais pas, que j'ai appris dans l'entretien de Blier sur le bonus, c'est vraiment l'intervention de Sacha Vierny, qui était le chef opérateur de René.
Ouais.
Et donc je me dis ah oui, tout s'explique, hein, la beauté de l'image. Donc Huguette vraiment me bouleverse, effectivement, c'est elle qui me bouleverse dans le film.
Donc c'est bien une démarche artistique, c'est vraiment.
Oui, puis la musique de Georges Delerue dans le film. Ah non, c'est un grand film de cinéma.
On est d'accord, Frédéric Bas. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Hitler connaît pas, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, je remercie toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Davio, Adrien Cara, Margot Pinel. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio et Coyen Guyenne. Lecture, comédien Aurélien Labruyère, Philippe Pirard, Damien Prévost, Marianne Thierry et Cécile Ribocaillol.